en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Des 3 maîtres du barreau que nous allons évoquer dans cette émission, 3 maîtres dont le nom est resté attaché à de grandes affaires de procès ou de défense d'accusés célèbres, 2 ont été académiciens, Georges Izard à l'Académie française et Jean-Marc Varro à l'Académie des sciences morales et politiques, tandis que le 3e, Jacques Izorni, ne l'a pas été, mais il est tout aussi célèbre que les autres. Alors nous en profiterons pour raviver sa mémoire avec mon invité, Maître Christian Charrière-Bournazel. Bonjour.
Bonjour, madame.
Merci d'être venu nous rejoindre dans le studio de Canal Académie. Vous êtes un avocat renommé, avocat au barreau de Paris, ancien secrétaire de la conférence, ancien bâtonnier de l'ordre et aujourd'hui vice-président du Conseil national des barreaux, c'est bien cela ?
Merci.
Entre autres, sans doute, entre autres. Et vous avez accepté de venir évoquer 3 confrères au fond. Mais je voudrais tout de même dire qu'on ne va pas dresser une biographie complète de ces 3 personnages. On va juste évoquer certains aspects de leur vie ou de leur personnalité qui sont en rapport avec vos propres souvenirs. Alors, êtes-vous d'accord pour commencer par Georges Izard ?
Tout à fait.
Je voudrais seulement, avant que vous ne preniez la parole, rappeler qu'il est né en 1903 et mort en 1973, qu'il a été élu à l'Académie française en 1971, succédant à Henri Massis. Quel souvenir gardez-vous de Georges Izard ?
De lui personnellement, madame, aucun, parce qu'il est mort en septembre 1973, au moment où moi-même j'arrivais au barreau et je n'avais pas eu encore l'occasion de le rencontrer. Mais je me suis tout de même intéressé à lui de très près. Je vous explique comment, lorsqu'on est secrétaire de la conférence et qu'on a eu l'honneur d'être désigné parmi les 2 premiers, l'usage veut que le premier secrétaire fasse, lors de la rentrée du barreau, l'éloge d'un avocat disparu, le second évoquant un procès. Et j'avais choisi de parler de Georges Izard, bien que sa mort fût récente, l'usage est veut qu'on laisse un petit peu passer le temps. Mais
là, c'était la rentrée de 76, donc
voilà,
il était mort en 73.
Voilà.
Ça fait 3 ans, donc c'était...
Et alors, c'est évidemment un éloge qu'on prépare avec beaucoup d'application, parce qu'il ne s'agit pas de se rendre ridicule. Mais surtout, c'est l'occasion de faire la connaissance de quelqu'un à travers tous ceux qu'il avait connus, à la fois, bien sûr, son épouse, Madame Georges Izard, qui était la sœur du cardinal Danilou, à travers ses anciens collaborateurs, mon confrère Albert, mon confrère Eisman, et un certain nombre d'autres qu'il avait approchés de très près. Et puis surtout, Georges Izard avait un mérite important, c'est qu'il avait écrit.
Oui,
il avait écrit
même,
beaucoup,
oui.
Des livres très remarquables, que ce soit Le viol d'un mausolée au moment de la déstalinisation, que ce soit Sainte-Catherine de Gênes, bref, une série d'ouvrages, beaucoup d'articles de presse, et puis il avait commencé son livre de souvenirs, si bien qu'il y avait un matériau qui pouvait être utile. Et puis, il y avait des plaidoiries qui étaient restées, dont les retranscriptions avaient été effectuées, et notamment 2 affaires qui m'avaient beaucoup impressionné, l'affaire Gravchenko, et puis, un peu auparavant, ou juste après, l'affaire Maurras contre Claudel. Alors, pour vous dire, je ne vais pas raconter la vie de Georges Izard, mais il faut savoir qui il était. Nous sommes en présence d'un homme qui appartient à une génération d'avocats uniquement plaidant, bien sûr, et qui était au fond des espèces de seigneurs de la profession. Georges Izard avait des qualités intellectuelles rares, puisqu'il avait été candidat à Normale supérieure. Il avait une culture absolument remarquable.
Il avait en philosophe plus... aussi.
Oui, il avait une carrière politique, puisqu'en 1936, il était allé, jeune homme de gauche, affronter à Milieu du Clos dans sa circonscription de Briey. Et il avait été élu député. Il avait en même temps connu la guerre et la résistance, puisqu'il a même rencontré dans la nuit de la résistance un de ses amis qui était Jean Moulin, dont le père enseignait dans la même école que son propre père, Georges Izard, fils d'instituteur. Et puis, après la guerre, il avait laissé de côté la politique, s'était consacré à l'écriture et avait eu des affaires tout à fait remarquables. Je voudrais évoquer, non pas simplement parce que c'est l'histoire, mais je voudrais évoquer la personne qui, chez lui, m'avait séduit. Georges Izard était né dans un milieu qui était le milieu des instituteurs laïcs. Son père était un homme extrêmement anticlérical. Il avait même été condamné parce qu'il avait refusé de se découvrir au passage d'une procession. C'était l'époque d'après 1905. Et Georges Izard, lui, rentrant un jour de l'école où il faisait ses études à Béziers, l'école dont son père était le directeur et où il habitait avec lui, a été comme foudroyé par la grâce aux portes de cette espèce de camp retranché qu'était l'école laïque. Et il y a eu une postérité à cette conversion, c'est la fondation de la revue Esprit. Car la revue Esprit a été fondée par André Déléage, Emmanuel Mounier et Georges Izard, qui étaient trois amis de Louis le Grand. Et c'est un contraste d'ailleurs très intéressant avec l'autre personnage de la même époque, Jean-Paul Sartre, qui fréquentait également Louis le Grand. Et pendant les soirées d'hiver, ou les matinées, les trois amis qui étaient en train de concevoir une revue qui redonne l'espérance à la jeunesse, révèle les trésors du christianisme, ils regardaient dans le cloître, l'espace de Louis le Grand qu'on appelle le cloître, ce petit jeune homme pâle, Jean-Paul Sartre, qui s'aspergeait d'eau froide et qui préparait, sur les ruines de l'humanisme mort dans l'étranger 14-18, une philosophie du désespoir. Et il y a une antithèse tout à fait intéressante entre précisément ce jeune homme qui va se battre pour les libertés, pour les droits de la défense, pour l'élévation de l'esprit humain, pour sa foi, et puis de l'autre, la philosophie glacée du philosophe existentialiste.
Voilà.
Alors, les affaires, bon, il a plaidé beaucoup de choses. Il a plaidé notamment pour des conducteurs de tramway à Tunis au temps du protectorat qui avaient été poursuivis parce qu'ils avaient fait grève. Et donc, c'était vraiment un homme à l'humanisme que je qualifierais, sans aucun regret, à l'humanisme de gauche. Et il a, en même temps, n'étant pas doctrinaire, conçu toujours une grande défiance à l'égard des totalitarismes, que ce soit celui de l'extrême droite, maurrassienne, ou celui de l'extrême gauche, marxiste. Et il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, ça n'est pas une réaction de centriste, qui serait un centriste, il y en a quelques-uns comme ça, qui n'osent se situer ni à droite ni à gauche, mais il est pour une espèce d'harmonie profonde qui allie à la fois sa philosophie chrétienne et son humanisme fondamental, du genre de celui de Lorca disant « je serai toujours du côté de ceux qui ont faim ». Arrive l'affaire Gravchenko. Nous sommes en 1948. Gravchenko, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un haut dignitaire du régime soviétique qui a connu avec flamme et servi avec ardeur le soviétisme, jusqu'aux purges staliniennes, où là, dans la folie du moment, alors qu'il était haut fonctionnaire zélé et sérieux, il est pris dans l'espèce de purge dont il ne mourra pas, mais il ira en prison, il sera traité comme s'il était un suspect, bref. Et à ce moment-là, chez Gravchenko se cassera la ferveur communiste. Et il attendra la fin de la guerre et l'envoi d'une mission soviétique en Amérique du Nord pour s'échapper du système. Et il écrira un livre formidable, « J'ai choisi la liberté ». Et ce livre, « J'ai choisi la liberté », qui est la révélation pour l'Occident tout entier des exactions du stalinisme et des folies totalitaires de la Russie soviétique, ce livre est fait l'objet d'attaques virulentes de la part du Parti communiste français et de l'hebdomadaire Lettres françaises, qui diffame Gravchenko, prétend que c'est un alcoolique, qui aurait battu sa femme, qui serait un fou, etc. On ravale au rang de médiocre ou de criminel l'auteur pour dévaluer son œuvre. On prétend même que c'est la CIA qui l'aurait écrite, qu'il aurait été subventionné par les Américains dans le cadre de la guerre froide. Bref,
quelle horreur.
Georges Izard fait un procès en diffamation
aux Lettres françaises.
Et c'est l'occasion d'un procès incroyable qui se passe à Paris. On installe, aujourd'hui ça ne dit plus rien, mais moi je n'étais qu'un bébé de 2 ans à l'époque, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Il y avait dans la salle, l'immense salle, le très grand vestibule du palais de justice de Paris, où s'ouvrent les chambres correctionnelles, on avait installé plus de 10 cabines téléphoniques pour que les journalistes du monde entier puissent correspondre avec leurs journaux. Étaient venus de Russie soviétique des témoins extraordinaires, des maréchaux de l'Empire soviétique, des dignitaires, y compris la première femme de Gravchenko, qu'on avait contrainte à faire un faux témoignage et qui, un soir au restaurant dans Paris, avait pleuré, entourée évidemment de toute la garde soviétique pour qu'elle ne s'échappe pas en disant « c'est ignoble ce que vous m'avez fait faire ». Et ce procès
a fait vaciller beaucoup d'intellectuels qui s'étaient engagés, justement.
Vous avez tout à fait raison. C'est un
de ces
procès où l'avocat est avocat et en même temps témoigne d'une imposture aux yeux de tous ses contemporains. Donc ce sont des moments inouïs. Et Gravchenko, après ce procès, qu'il a gagné par Jean Gisard, est devenu une ombre errante et il a fini par se suicider, poursuivi jusqu'à sa fin par la vindicte des staliniens qui ne lui pardonnaient pas son livre. Ça, c'est le premier procès que je trouve tout à fait passionnant et où il a eu un rôle historique déterminant. Et il y a un livre, qui est d'ailleurs un livre sur le procès Gravchenko, qui se trouve sûrement, si on demande à nos précieux bouquinistes des quais de la Seine, qui trouvent tout, si on leur demande, ils doivent pouvoir le retrouver. Il y a un autre procès qui s'est passé un peu après, en 53, bien qu'il portât sur des événements qui étaient contemporains, et même un peu antérieurs aux autres, c'est le procès qu'il a plaidé pour Paul Claudel contre Charles Maurras. Charles Maurras est jugé après la guerre, et il avait, dans l'Action française, pendant toute la guerre, écrit des choses épouvantables, et allant même jusqu'à interpeller Worms, le père de Roger Stéphane. Où est passé le juif Worms? Il est sur la Côte d'Azur. C'est tout juste, il ne donne pas son adresse. Il faut aller le chercher là-bas et lui demander des comptes. Non. Et Worms sera arrêté.
Et pourquoi Claudel lui interdit un procès?
Alors, parce que Claudel témoigne par écrit, et notamment de cet épisode, et envoie un témoignage écrit à la cour qui juge Maurras. Alors que le témoin, dans une salle d'audience, ou quand il écrit, à moins de faire un faux témoignage, bénéficie d'une immunité, on ne peut pas le poursuivre. Contre les lois de la procédure, Maurras décide de faire un procès à Claudel à cause de ce témoignage. L'affaire, après de multiples péripéties procédurales qui la font traîner en longueur, est enfin jugée en 1953. À l'époque, Maurras est mort et Claudel est à 2 ans de sa fin. Et c'est une plaidoirie extraordinaire que fait Jean Gisard, sans complaisance, et notamment faisant un parallèle incroyable dans la phrase suivante. Il rappelle ce face-à-face entre l'auteur de Jeanne au Bûcher, Claudel, et cet autre qui ne pouvait admettre ce regard fixé sur un dieu qui s'est incarné dans un juif. Phrase extraordinaire. Et il avait conclu sa plaidoirie en disant « Souhaitons que la postérité, oubliant ses crimes, puisse remettre à lire ses œuvres. Et souhaitons aussi que ses amis plus discrets nous permettent de lui consentir le silence qui est la forme suprême de la pitié pour les erreurs et les fautes des morts. » Ça, c'était plaidé.
C'était donc une évocation de quelques grands procès de Maître Georges Isard. Nous allons marquer une toute petite pause et puis on se retrouve pour que vous évoquiez encore un petit détail.
Oui, sur Georges Isard, parce qu'il avait également admirablement parlé dans son discours de réception à l'Académie française, dans son remerciement, comme on dit, de la profession d'avocat. Il avait dit à peu près ceci. Messieurs, il disait messieurs parce qu'il n'y avait pas de dame encore. Messieurs, vous êtes des écrivains, des savants, des historiens, et des œuvres écrites gardent la trace de votre génie. Quand l'avocat a terminé sa tâche, il ne reste rien de ses efforts. Des trésors de talent s'évanouissent chaque jour dans des salles vides où le public est l'unique auditoire. Et j'avais trouvé très belle cette comparaison entre celui qui grave pour la mémoire et l'autre qui sculpte des paroles dans le vent.
Mais qui peuvent changer l'histoire, vous l'avez dit. Qui peuvent changer l'histoire ou les regards, en tout cas. Voilà. Donc, une courte pause avant que nous évoquions, toujours avec maître Christian Charrière-Bournazel, le deuxième grand maître du barreau, Jean-Marc Varro.
Canal Academy vous propose une série d'émissions consacrées au compositeur Olivier Messiaen. Sa grande sensibilité aux chants d'oiseaux, son sens de la pédagogie au Conservatoire de Paris, sa prédilection pour l'orgue. François-Bernard Mache, Claude Samuel et Michel Fischer apportent leur témoignage sur ce grand musicien du XXe siècle. Ces émissions sont à écouter sur canalacademy.com.
Évoquons maintenant, si vous le voulez bien, la personnalité de maître Jean-Marc Varro, qui lui nous a quittés beaucoup plus récemment, c'est-à-dire en 2005. Il était né en 1933. Il a longuement enseigné à l'université de Paris IV la philosophie morale du droit. C'est pour dire qu'il était à la fois avocat et philosophe.
Bien sûr, Jean-Marc Varro, qui avait été premier secrétaire de la conférence, était en même temps un homme d'une prodigieuse culture. Et il avait un doctorat ès lettres, c'est-à-dire de philosophie. Et Jean-Marc Varro était à la fois un homme d'une magnifique culture et d'un grand talent d'avocat, avec beaucoup de courage. N'étions pas tout à fait sur les mêmes rivages de la pensée politique. Notre différence d'âge, 13 ans, n'était pas si considérable, et je l'ai très bien connu, puisque j'avais commencé, moi, mon stage dans l'appartement du 2 avenue Hoche, où il exerçait, à côté de Roland Dumas. C'était d'ailleurs une proximité très étonnante,
oui,
que cet homme de gauche et cet homme plutôt de droite, qui s'entendaient très bien, qui ont exercé dans cet endroit pendant près d'une dizaine d'années ensemble, en cabinet groupé, comme on dit. Et Jean-Marc Varaud avait une grande sensibilité à la défense. Il était en même temps un militant très affirmé d'un combat sans cesse recommencé contre la prison telle qu'on la conçoit en France. Il a d'ailleurs commis un livre tout à fait intéressant, « La prison, pourquoi faire ?» Et il était engagé, avocat de presse, avocat de propriété littéraire artistique, avocat au moment des procès de l'Algérie. Il était assez courageux pour accepter d'être au procès Papon, l'avocat de Maurice Papon. Ça n'était pas très populaire.
Ça ne devait pas être très facile. Oui.
J'étais de l'autre côté de la barre, et un certain nombre de mes confrères, dont je déplore encore aujourd'hui le comportement, ne lui serrait pas la main. J'ai toujours pris soin d'aller toujours le saluer au début de chaque audience de ce procès qui a duré 6 mois. Je ne suis pas allé à toutes les audiences, mais à toutes celles où j'étais. J'allais toujours le saluer, car il n'a jamais manqué ni de tenue, ni de profondeur, ni de confraternité à l'égard des autres. Et si vous voulez, pour en parler, je ne saurais mieux dire que ce que quelqu'un qui lui est complètement opposé, Jacques Vergès, avait dit de lui. Il faut se remettre en arrière, se reporter à l'époque des procès qui sont en liaison avec la guerre d'Algérie. La France, avant l'indépendance, est plongée dans cette guerre civile, avec d'un côté le jugement des gens qu'on appelle les rebelles, les félagas, les gens du FLN. De l'autre, le jugement de ceux qu'on appelle l'OAS, on ne leur donnait pas d'autre nom que les extrémistes de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui ne voulait pas entendre parler de l'indépendance de l'Algérie et qui était totalement aux antipodes du FLN. Et tandis que Jean-Marc Varaud plaidait, lui, dans les procès du côté de l'OAS, Vergès plaidait du côté du FLN. Il n'était pas le seul, il y avait José Daligny, il y avait Roland Dumas. Et quand on a rendu hommage à Jean-Marc Varaud après sa mort au palais de justice, Jacques Vergès est venu dire ce qu'avait été cette confraternité et au-delà cette fraternité des avocats dans cette période difficile. Et il a rappelé que Jean-Marc Varaud, comme Jean-Luc Sévignancourt, comme Jacques Isorni, des hommes réputés de droite, l'avait soutenu lorsqu'il était pris à partie par les autorités comme avocat du FLN et n'avait pas hésité à faire cause commune au nom des droits de la défense et de la liberté de plaider pour éviter qu'il ne lui arrive à lui, Jacques Vergès, des catastrophes.
Une valeur plus forte que les opinions.
Absolument. Et Jacques Vergès avait dit avec beaucoup d'émotion qu'il n'avait pas eu l'occasion de pouvoir en faire autant pour eux, mais qu'il ne pouvait pas oublier cette solidarité des avocats dans la défense du principe même de la liberté de parole quand nous sommes, c'est encore un mot de Jean-Marc Varaud, des passeurs d'hommes. Formule remarquable que j'emploie souvent. L'avocat est un passeur d'hommes.
Vous avez cité le nom de maître Jacques Isorni. Ça va nous permettre d'enchaîner sur le portrait de ce troisième grand maître du barreau qui n'a pas été académicien, mais qui aurait bien voulu l'être, sans doute.
Il a été candidat.
Ah.
Et il a été candidat malheureux. Et comme Jacques Isorni était un homme d'un caractère très trempé, il avait commis un petit livre qui s'appelait « La fièvre verte », qu'on lui a beaucoup reproché parce que ce livre aurait été réalisé en partie à partir de confidences qui auraient été faites par un maître d'hôtel qui, chez un académicien, entendait les uns et les autres parler.
Alors Jacques Isorni était né en 1911 et il est décédé le 8 mai 1995. C'était un avocat très politisé, en vérité, bien sûr, très engagé d'un côté,
encore
évidemment d'un
encore
côté
un premier
de
secrétaire de la conférence.
Encore,
il était premier secrétaire
décidément.
De la conférence. Et il l'est à une période inouïe, puisque nous sommes à la fin de la guerre, il a 30 ans, et il va être l'avocat successivement de Robert Brasillach, puis du maréchal Pétain.
C'est évidemment deux noms qui restent attachés pour,
et
à lui pour
toujours.
Quand
on a 30 ans et qu'on est dans une période de l'histoire aussi mouvementée, aussi terrible au plan de tout ce qui s'affronte, de souvenirs, de reddition de comptes et d'espérance, on imagine ce que peut être pour un jeune homme de 30 ans, quel que soit son talent, le fait de devenir l'avocat de Robert Brasillach, puis du maréchal Pétain.
Alors, ah, il sera empoigné. Il avait sauvé la tête de Brasillach, mais il n'a pas réussi.
Il n'a pas pu. Brasillach était condamné à mort, et ça, je vous en dirai un mot après, si vous voulez bien.
Oui.
En revanche, il a, paraît-il, été absolument remarquable au procès du maréchal Pétain, mais il n'a rien pu faire, et il a été empoigné par ce dossier qu'il ne l'a pas lâché. Si bien qu'on a longtemps fait à Jacques Isorni la réputation d'un homme d'extrême droite qui aurait été pétiniste. Et Jacques Isorni passait son temps à rappeler à juste titre que pendant la guerre, il avait plaidé constamment pour des résistants, pour des juifs, pour des communistes, lorsqu'il leur arrivait de devoir comparaître en justice. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, il faut le croire parce que c'est vrai. Jacques Isorni n'était pas un homme d'extrême droite.
Mais c'était pris d'affection pour le maréchal Pétain.
Cette cause qui lui était tombée dessus et qui était si colossale fait qu'il a passé son temps à plaider pour le maréchal Pétain à travers les livres qu'il a écrits jusqu'à sa mort. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il était un peu marginal pour l'Académie française.
Donc, Jacques Isorni doit sauver la tête de Brasillac.
Et il va supplier.
Il va supplier.
Il va supplier François Mauriac de sauver Brasillac. Et François Mauriac fera tout ce qu'il peut et ne pourra rien. Et Brasillac sera exécuté. Et quand Jean Lacouture a fait ce très beau livre sur Mauriac, il est allé voir Jacques Isorni pour avoir le récit de cette intervention d'Isorni auprès de François Mauriac, qui lui-même est intervenu auprès du général de Gaulle. Et au moment de prendre congé, Lacouture, qui avait eu le récit qu'il voulait, dit « Merci, maître ». Et Jacques Isorni dit « Mais ce n'est pas le seul souvenir que j'ai de mes relations avec Mauriac. »« Ah bon ?» dit Lacouture, qui se rassied. Et Isorni raconte cette chose très intéressante. Lorsque, longtemps après, Mauriac, qui avait reçu des témoignages, fait dans son bloc-notes une allusion extrêmement vive aux exactions que commettrait l'armée française en Algérie et les tortures, une commission d'enquête parlementaire est créée. Et c'est l'époque où Isorni est député. La commission d'enquête constituée est présidée par un ouvrier du Nord, socialiste, M. Provost, qui ne se ressent pas de présider la commission au moment où François Mauriac de l'Académie française va venir témoigner. Et il demande à Isorni de présider à sa place. Une commission d'enquête parlementaire, c'est très important, puisque c'est pratiquement comme une juridiction. On n'a pas le choix, on doit venir et témoigner, sinon on commet un délit. Et Isorni raconte à Jean Lacouture que le jour où François Mauriac vient, ils échangent un regard qui est lourd de souvenirs. Et Isorni m'a dit, vous savez, comme il l'a dit à Jean Lacouture, l'histoire avait inversé les rôles. J'étais naguère le suppliant qui venait voir Mauriac pour qu'il essaye d'obtenir la grâce de Brasillac, ce qu'il a tenté de faire. Et des années plus tard, je présidais une commission d'enquête parlementaire et j'entendais Mauriac comme témoin qui n'avait pas le choix. Et c'est ainsi que la vie nous oblige à rester modestes, puisque tantôt nous sommes dans un rôle et tantôt dans un autre.
Merci, maître Christian Charrière-Bournazel, d'avoir évoqué ces personnes avec nous. Je voudrais seulement signaler que sur Canal Académie, on trouve la notice sur la vie et les travaux de Jean-Marc Varro, puisqu'elle a été prononcée par son successeur à l'Académie des sciences morales et politiques, Gilbert Guillaume, président de la Cour internationale de justice. On peut aussi consulter votre site internet www.charrière-bournazel.com. Qui mettez-vous dessus? Tous vos discours, toutes vos plaidoiries?
Oui,
ou
c'est
vos lectures?
Bon, j'y vais ce qui m'intéresse. Et puis, c'est une manière aussi de dire aux autres, ben voilà, je m'expose, j'ai écrit tel article de journal, j'ai fait tel éloge, tel palais littéraire sur Hanouille ou sur Beckett ou sur Bernanos. Voilà. Donc, ce n'est pas par immodestie, mais c'est parce que c'est une manière de conserver ses archives. Voilà, et puis d'être exposé, y compris à la critique.
Merci en tout cas d'être venu partager ces moments avec
Merci
Canal Academy.
Invité.
Et je voudrais dire qu'une autre émission existe avec vous et qu'elle est consacrée à André Frossard de l'Académie française.